350 ans des forges à Grand-Villard, une aventure humaine. Épisode 2. La dynamique de l'innovation. Le site des forges à Grand-Villard est probablement l'un des plus anciens toujours en activité en Europe. Rien ne prédestinait ce site à une telle longévité et les difficultés ont été nombreuses. Et pourtant, le site a traversé les siècles, grâce aux innovations apportées par les différents maîtres des forges et raconte beaucoup de la grande et de la petite histoire. Depuis 350 ans, le destin de Grand-Villard et des alentours est ainsi très étroitement relié à celui des forges. Dans le présent numéro, vous découvrirez les différentes évolutions qui ont permis au site de surmonter les écueils rencontrés au cours des 18e et 19e siècles. Le 7 juillet 1708, 15 ans après la mort de Gaspard Barbeau qui avait créé les forges et les avait placées au cœur d'un véritable empire industriel qui ne lui a pas survécu, la seigneurie de Grand-Villard est vendue à Pierre Chevalier de la Basinière. Ce dernier, déjà seigneur de Morvillard, se lance dans la production de fils de fer pour assurer la survie du site dont le fer ne trouve plus de débouchés. À cette date, il n'existe aucune usine de production de fils de fer en France et le royaume doit l'importer de Suisse et d'Allemagne. Pierre Chevalier n'a donc guère de difficulté à obtenir en 1732 un privilège royal qui lui garantit la maîtrise du marché national et lui permet de doubler sa production. Pour ce faire, il s'associe à Noël Fleur qui va enclencher une dynamique continue de progrès technique qui va permettre d'augmenter la productivité et surtout la qualité des fils produits. Les innovations portent aussi bien sur la production de la fonte, sur la qualité de son affinage, que sur l'emploi de nouvelles machines qui assurent des produits homogènes et fiables qui leur permettent de répondre aux besoins de production spécialisés, tels que les épingleries de l'Aigle en Normandie. Jusqu'en 1758, date de la séparation des deux seigneuries, le fer est ainsi produit à Grand-Villard pour être transformé en fil à la tirerie de Morvillard puis expédié dans l'ensemble du royaume. Lorsque le nouveau seigneur de Morvillard décide de ne plus se fournir en fer à Grand-Villard, celui de Grand-Villard, le marquis de Peuzeux, décide de créer sa propre tirerie. En 1777, Louis XVI décide de rendre publiques les innovations portant sur la production du fil de fer, ce qui permet à Dona Laurent, qui a succédé à Noël Fleur comme maître des forges de Grand-Villard, de les exploiter. La Révolution va ensuite mettre en place le système des brevets, qui protège les innovations pendant une certaine durée. Les nouveaux propriétaires des forges de Grand-Villard et Morvillard, Jean-Baptiste Mijon et Jean-Baptiste Dominé, passent un accord avec les Japis de Beaucourt, qui leur permettent d'utiliser les brevets qu'ils ont déposés et sont ainsi en capacité de produire des fils adaptés à la production mécanisée de vis à bois. Grand-Villard abandonne alors les activités de forgeage proprement dites pour se spécialiser dans la tirerie, pour approvisionner les usines de Beaucourt des Japis. Le 19e siècle va être marqué par le développement de nouveaux procédés, qui permettent, lorsque les Japis décident de ne plus employer le fil Grand-Valais après la mort de Dominé en 1822, de venir leur faire concurrence sur leur propre terrain de la visserie, puis de la boulonnerie. Les nouvelles innovations techniques sont mises en œuvre avec l'appui de l'École des arts et métiers de Châlons. Mais c'est surtout sous le règne du gendre de Mijon, Juvénal Vielard, associé à son beau-père à partir de 1835, que le site des forges va connaître un essor considérable. La deuxième moitié du XIXe siècle voit ainsi l'introduction de la machine à vapeur, qui prend le relais d'une énergie hydraulique devenue insuffisante face à l'essor de la production, la desserte du site des forges par le chemin de fer et le développement d'un parc de machines important, avec à la clé, à compter des années 1875, une reconstruction complète du site pour l'adapter aux conditions de production de l'époque. À travers le comptoir des quincailleries réunies de l'Est, qui permet de tenir les prix, un réseau commercial couvre l'ensemble de l'Europe et l'Amérique du Sud. À l'œuvre industrielle de Juvénal Vielard s'ajoute le développement d'un paternalisme social, marqué en particulier par la construction, au lendemain de la guerre de 1870, des cités ouvrières, mais aussi par la mise en place d'écoles, de magasins réservés aux ouvriers, de caisses de secours mutuels et de retraite. En 1879, Juvénal passe avec ses trois fils, Léon, Henri et Armand, un pacte de famille qui grave dans le marbre les principes qu'il a portés sa vie durant et qui fait de ses enfants non pas les propriétaires, mais les dépositaires du patrimoine familial, constitués avant tout par les usines, qu'ils ont pour mission de développer et de transmettre à la génération suivante. Ce pacte produit aujourd'hui encore, à la septième génération des descendants de Juvénal, ses effets. Suite et fin au prochain épisode.